Convertissez-vous. Convertissez-vous au Seigneur. Revenez à l'Éternel, votre Dieu. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Voilà le cri qui retentit partout dans la Bible. Voilà le message urgent à prêcher partout dans le monde. Car la Bible est claire là-dessus. Personne ne pourra entrer dans le royaume des cieux sans la conversion, sans la repentance ou sans ce retour vers l'Éternel. Il y a un passage de la Bible que j'aimerais lire avec vous ce matin, celui où Jésus parle justement de conversion et de nouvelle naissance à un intellectuel de l'époque. Et il le fait de manière, je dirais, très intéressante, en utilisant une image qui montre ce qui se passe dans la vie d'une personne lorsque celle-ci accueille l'Évangile dans sa vie. Vous savez, les Évangiles montrent souvent Jésus entouré de gens du peuple, des gens simples, des pêcheurs, des collecteurs d'impôts, parfois même des parias de la société. Mais ici, dans ce passage que nous allons lire, ce n'est pas du tout le cas. Ce passage se trouve dans l'Évangile selon Jean chapitre 3, et nous allons lire à partir du verset 21. « Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé de Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. » Nicodème reprit la parole et lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela ? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage ? Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes ? Personne n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour situer ce passage dans son contexte, il faut savoir que Jésus est monté à Jérusalem pour la fête de la Pâque. La ville était pleine de pèlerins venus d'un peu partout et souvent de très loin. On peut penser que des centaines de milliers de personnes campaient aux alentours de la ville de Jérusalem pour cette occasion. Et Jésus, accompagné de ses disciples, enseigne les gens concernant les choses spirituelles, le règne de Dieu, comment entrer dans le royaume de Dieu, comment obtenir le salut. Et en même temps, il guérit des malades, il exorcise ceux qui avaient des esprits mauvais. Beaucoup de gens étaient émerveillés de tout ce qu'ils voyaient faire Jésus, et ils croyaient en lui. Or, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a eu cet homme en particulier, et ce n'était pas le premier venu, car il s'agissait d'un pharisien d'un certain âge. Pensons d'un âge mûr, car il était membre du Synédrin, c'est-à-dire le tribunal juif, le tribunal religieux des Juifs. C'était sans doute un homme qui avait un statut élevé, un homme riche, un homme qui a remarqué ce jeune rabbi qui enseignait les foules et qui faisait du bien partout. Et cet homme qui a remarqué Jésus, c'est Nicodème. Il faut savoir qu'en tant que pharisien, il était sans doute strict dans l'observation de la loi de Moïse. D'ailleurs, le mot pharisien veut dire séparé. Les pharisiens, c'était un groupe de politico-religieux qui s'étaient séparés du reste du peuple, séparés de la vie normale, et qui avaient fait vœu d'accomplir chaque détail de la loi de l'Ancien Testament. Pour eux, la loi était la chose la plus sacrée au monde. Hélas, les évangiles nous montrent qu'ils sont tombés dans le légalisme à cause de l'interprétation qu'ils en faisaient. Ils ont établi une série de règlements, et ces petits règlements sont devenus plus importants que la loi elle-même. Et ils ont fini par devenir la secte la plus rigide du judaïsme. Jésus, d'ailleurs, les a souvent critiqués, sévèrement critiqués, n'est-ce pas, à cause de ce légalisme qui se voyait en eux. Et Nicodème faisait partie donc de ce groupe, et en plus il était chef des Juifs, nous dit le passage, car il siégeait donc au Sanhédrin. Le Sanhédrin était une sorte de tribunal, un conseil suprême de la nation composé de 70 membres. Et donc Nicodème faisait partie de ce groupe-là. Cela explique sans doute pourquoi cet homme est allé voir Jésus, non pas en plein jour, mais la nuit. Sans doute la précaution, la prudence, peut-être la crainte du qu'en dira-t-on, car Nicodème ne veut pas prendre le risque de s'exposer au regard de ses pairs en compagnie de ce maître, de ce rabbi appelé Jésus. L'évangéliste Jean nous dit au chapitre 12 ceci, « Et pourtant, même parmi les dirigeants, beaucoup crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'osaient pas le reconnaître ouvertement de peur d'être exclus de la synagogue, car ils tenaient davantage à l'approbation des hommes qu'à celle de Dieu. » François Mauriac écrit à propos de Nicodème, et il dit ceci, je cite, « Il aurait voulu s'entretenir avec cet inconnu. Seulement, il y avait ses confrères, sa carrière. » 3 points de suspension. Une âme droite, sans doute, ce Nicodème, mais d'une autre caste que ces pêcheurs galiléens qui, en suivant leur maître, n'avaient rien à perdre qu'une vieille barque et des filets reprisés. Un docteur en Israël est tenu à plus de prudence que les petites gens. La prudence est une vertu, il n'est pas bon de scandaliser lorsqu'on occupe une place en vue. Ceci dit, il y a peut-être encore d'autres possibilités pour comprendre pourquoi Nicodème est venu voir Jésus la nuit. C'était peut-être tout simplement pour pouvoir entendre Jésus à son aise, loin de la foule, du bruit de la foule. Vous savez que Jésus était toujours accompagné de beaucoup de monde, n'est-ce pas? Et le moment favorable était sans doute la nuit, quand tout le monde dormait. Le moment le plus favorable pour être en tête à tête avec ce jeune rabbi, c'était dans le silence de la nuit. Les rabbins affirmaient aussi que le meilleur moment pour étudier la loi, c'était dans le silence de la nuit, quand tout était calme. Nicodème aurait voulu être seul à seul avec Jésus pour ne pas être interrompu par quelqu'un d'autre et ainsi mieux réfléchir aux choses spirituelles, aux paroles du Christ. C'est aussi possible. Après tout, je me dis que peu importe que ce soit le jour ou la nuit, peu importe que ce soit le jour ou la nuit, l'important c'est qu'il a eu le courage d'aller vers Jésus. Il a eu le courage, malgré sa position, d'aller à la rencontre du Christ. L'important, c'est de venir à Jésus. Or, le malheur de beaucoup de monde aujourd'hui, c'est que ni le jour ni la nuit, ils ne viennent pas à Jésus, parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont perdus et qu'ils ont besoin de Jésus-Christ pour leur salut. Il va donc rendre visite à Jésus la nuit et il lui adresse des paroles respectueuses, des paroles élogieuses. « Maître, Rabbi, Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Ces paroles montrent que Nicodème connaissait un petit peu de la vie de Jésus. Il savait que Jésus, il savait ce que Jésus faisait un peu partout, n'est-ce pas? Il savait que le peuple avait beaucoup de considération pour ce rabbi galiléen. Et Jésus va droit au but pour répondre à la question de Nicodème. Il lui dit ce qu'il faut faire pour vivre spirituellement. Il lui parle de la nouvelle naissance. Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il faut naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Il faut naître de nouveau pour avoir la vie éternelle, le salut, affirmation stupéfiante, n'est-ce pas? Tellement stupéfiante que ce savant ne comprend pas ce que Jésus veut dire. N'étant pas né spirituellement, il prend les mots du Christ au pied de la lettre et il ne comprend pas. Ça me fait penser à une parole de l'apôtre Paul qui dit, je cite, « L'homme livré à lui-même ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie et il est incapable de le comprendre, car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. » Mais il se peut aussi qu'après avoir fait le premier pas, très important, n'est-ce pas, aller à la source, aller obtenir les informations nécessaires à la source, se renseigner lui-même auprès du Christ pour se faire une opinion personnelle, il se sert de son intelligence pour comprendre. Pour comprendre, il n'hésitant pas à poser des questions pour obliger le Christ à expliquer un peu plus. Qu'est-ce que c'est cette affaire de la nouvelle naissance? Rentrer dans le sein de sa mère, comment cela peut-il se faire? Et Jésus répond, il faut naître d'eau et d'esprit. Il faut naître d'eau et d'esprit. Et ensuite, il explique cette affirmation au travers de ce qu'il dit au chapitre 3 de l'Évangile selon Jean. Nicodème est sans doute reparti chez lui avant l'aube, probablement troublé par cet enseignement, par ces paroles du Christ, mais probablement aussi enrichi personnellement de ce qu'il avait entendu de la bouche de Jésus. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire de cet homme, c'est que son histoire ne s'arrête pas là. Car l'évangile de Jean nous reparle de lui un peu plus loin, au moins à deux autres reprises. Et ce que l'évangile de Jean nous dit, nous montre qu'il y a eu effectivement quelque chose de profond qui s'est passé dans la vie de Nicodème. Quelque chose qui a bouleversé sa vie. Et que les paroles du Christ ont eu effectivement un impact profond dans sa vie, au point de la bouleverser. Au chapitre 7, lorsque certains veulent conduire Jésus devant le Sanhédrin pour être jugé, et que finalement, nous dit l'évangéliste Jean, personne n'ose le faire, parce que, même pas les huissiers qui étaient au service du Sanhédrin, parce qu'ils ont entendu les paroles du Christ et ils affirmaient, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et donc ils n'ont pas osé d'attraper le Christ et de l'amener devant le Sanhédrin. Et là, les pharisiens, quand ils entendent ces paroles des huissiers, ils les interpellent en disant, avez-vous été séduit, vous aussi? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? Et c'est à ce moment-là qu'il y en a un qui va sortir de son silence. C'est Nicodème. Et il sort de son silence pour prendre la parole, pour défendre ce rabbi de Galilée, ce Jésus qui lui avait dit, il faut naître de nouveau. Et Nicodème leur dit, notre loi juge-t-elle un homme sans que l'on ait pris connaissance de ce qu'il a fait, sans qu'on l'ait entendu d'abord? Et ses homologues répliquent vertement, il injure et injurie. Es-tu aussi galiléen? C'était une injure d'appeler un membre du Sanhédrin de galiléen. Nicodème commence à montrer qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans son cœur. Mais ce qui va vraiment prouver cela, c'est que lors de la mort du Christ, lors de la descente du corps du Christ de la croix, Nicodème se présente avec une grande quantité d'une composition d'aloès et de myrrhe, et il l'a fait pour embaumer le corps du Christ. Avec Joseph d'Arimathée, ils vont tous les deux entourer le corps de Jésus dans des langes et des aromates, et ils vont déposer le corps du Christ dans un tombeau tout neuf. Encore une preuve, n'est-ce pas? Encore une preuve de sa complète dévotion à celui qui lui avait dit, Nicodème, il faut naître de nouveau. Sauf que maintenant, Nicodème ne craint plus rien. Il ne craint pas de manifester sa foi. Ce récit de l'entretien de Jésus avec Nicodème, plus les faits que les paroles du Christ ont exercées sur sa vie, me font retenir trois choses. D'abord, la nécessité absolue de la nouvelle naissance, de la conversion. Le Christ le dit. On ne naît pas chrétien, on le devient par la foi au Christ. On le devient par la conversion. Et ce matin, j'aimerais poser la question à chacun de nous ce matin. Sommes-nous nés de nouveau? Nous sommes-nous vraiment convertis au Christ? Sommes-nous ses disciples? Avons-nous donné notre vie au Seigneur? Remarquez que je ne pose pas la question, est-ce que vous êtes religieux? Est-ce que vous venez à l'église régulièrement? Je ne vous pose la question, est-ce que vous avez été baptisé? Le baptême, certes, est un acte d'obéissance, n'est-ce pas? C'est sans doute le premier acte d'obéissance de celui qui donne sa vie au Christ. Mais le baptême ne sauve personne. En tout cas, la Bible ne le dit pas. Vous pouvez être baptisé, rebaptisé, rebaptisé encore, et peut-être vous êtes toujours perdu, parce que vous n'êtes pas passé par la nouvelle naissance. Il n'y a rien de magique dans l'eau, c'est de l'eau, c'est de l'eau. Donc cette eau du baptême ne produit rien de magique en vous. C'est la foi au Christ qui fait de nous des nouvelles créatures. Malheureusement, il y a beaucoup de monde qui a été baptisé dans nos pays occidentaux et qui ne connaissent absolument rien à l'évangile de Jésus-Christ. Et ils sont perdus parce qu'ils ne sont pas allés à la source. Ils ne sont pas allés à la source, ils n'ont pas reçu le Christ dans leur vie, ils ne sont pas nés de nouveau, comme dit Jésus. On ne naît pas chrétien, mais on est pécheur, nous dit la Bible. On est pécheur, séparé de Dieu et condamné à la perdition, nous dit la Bible. Car le salaire du péché, c'est la mort. La conséquence du péché, c'est la mort, nous dit la Bible, et nous sommes tous pécheurs. Et la seule manière de sortir de cette condition, c'est la conversion. C'est de nous tourner vers Dieu par Jésus-Christ, d'accepter par la foi le salut qu'il nous offre gratuitement, d'accepter le sacrifice qu'il a accompli sur la croix pour chacun de nous, pour notre salut. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, de nous, c'est un don de Dieu, nous dit la Bible. Nicodème, il te faut naître de nouveau, car si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. La deuxième chose, c'est le processus de la nouvelle naissance. Jésus explique à Nicodème comment cela se passe. Il dit, il faut naître d'eau et d'esprit. Qu'est-ce que cela signifie, naître d'eau et d'esprit? Naître d'eau, certains ont vu dans cette affirmation du Christ une référence au baptême chrétien. Mais je ne pense pas qu'on puisse trouver dans la Bible des arguments forts pour soutenir cette interprétation. La Bible affirme partout, comme je l'ai dit, que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Voilà l'invitation que l'Évangile adresse à chaque être humain. Alors je pense qu'il faut trouver ailleurs la compréhension, dans d'autres passages, la compréhension de cette phrase « naître d'eau ». Si l'on cherche d'abord dans le Nouveau Testament, on constate que l'eau désigne la parole de Dieu. Éphésiens 5, 26 nous parle de l'eau de la parole, je cite, « l'eau de la parole qui purifie et sanctifie l'Église ». Dans ce même évangile, au chapitre 15, Jésus dit à ses disciples qui sont déjà purs, à cause de la parole qui leur a été annoncée. L'apôtre Pierre, lui aussi, présente la parole de Dieu comme étant le facteur essentiel de la nouvelle naissance. Il dit ceci, Je cite, « En effet, vous êtes né de nouveau, non de père mortel, mais grâce à la parole vivante et éternelle de Dieu. Car il est écrit, « Tous les humains sont comme l'herbe et toute leur gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure pour toujours. Or, cette parole est celle de la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. » Mais je trouve que la clé de la compréhension de cette phrase « naître d'eau » se trouve surtout dans le prophète Ézéchiel. Lorsque Dieu dit par la bouche d'Ézéchiel ceci, « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » C'est très clair, n'est-ce pas? C'est très clair, l'eau ici est utilisée de manière symbolique, mais liée à la promesse de la nouvelle naissance, de la régénération. L'eau employée dans toutes les purifications rituelles du peuple juif à l'époque était le signe et le sceau de ce changement, de cette repentance, qui était la condition essentielle à la nouvelle naissance, de cette douleur causée par lorsqu'on prend conscience du péché, n'est-ce pas, de la situation dans laquelle on se trouve. Il y a donc dans l'affirmation « naître d'eau » le symbole de la repentance, de la repentance préalable, n'est-ce pas? Peut-être à l'image du baptême de Jean-Baptiste, parce que c'était à l'époque, n'est-ce pas, de Jean-Baptiste, à l'image du baptême de Jean-Baptiste qui exigeait la repentance d'abord, avant de se faire baptiser. La repentance qui est le fruit de la prédication de la parole de Dieu, de l'annonce de l'Évangile, car celui-ci nous invite à la repentance. En ce qui concerne l'affirmation « naître d'esprit », à la lumière des textes du prophète Ézéchiel aussi, surtout les chapitres 36 et 37, cela semble dire « naître aux choses spirituelles »,« naître spirituellement ». Et la nouvelle naissance dont parle Jésus ici est une naissance qui appartient au domaine de l'esprit, au domaine de l'esprit. On pourrait dire que c'est le cœur et l'esprit qui s'ouvrent à l'Esprit de Dieu, C'est le cœur et l'esprit nouveau dont nous parle le prophète, un cœur de chair que Dieu met à la place de ce cœur de pierre que nous avons souvent en nous, n'est-ce pas? Naître d'esprit, finalement, c'est laisser l'Esprit de Dieu prendre possession de notre vie. Dieu dit par la bouche du prophète, « Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. » Et vous vivrez. En mot, naître d'esprit, c'est ouvrir son cœur, c'est ouvrir sa vie, son esprit, à Dieu tout simplement, pour qu'il la transforme, pour qu'il la bouleverse. Ce que Jésus dit finalement à Nicodème, c'est qu'il nous faut, par l'écoute de la parole de Dieu, par l'écoute de l'Évangile, passer par la repentance et la conversion, pour être sauvé et devenir une nouvelle créature. La troisième et dernière chose que je retiens, ce sont les effets, les résultats, n'est-ce pas, de cette nouvelle naissance, cette transformation dans notre vie. Elle transforme véritablement notre vie, comme elle a transformé celle de Nicodème, comme elle a transformé celle de ceux qui ont été baptisés ce matin, et de millions d'autres personnes. Elle est le commencement d'une nouvelle vie, car en opérant ce changement radical en nous, en opérant cette rupture complète de vie avec ce que nous étions avant et ce que nous sommes devenus grâce à l'Esprit du Seigneur, nous sommes des nouvelles créatures, nous sommes nés de nouveau. On peut le dire tout simplement comme le Christ, nous sommes nés de nouveau et nous vivons avec le Christ en nous. Cette nouvelle naissance fait de nous des enfants de Dieu. Notre être tout entier est complètement régénéré. Au niveau, par exemple, de l'esprit, car nous recevons la pensée de Jésus-Christ en nous. Au niveau de notre âme, car nous recevons à nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Au niveau de notre corps aussi, car celui-ci, dit la Bible, devient le temple du Saint-Esprit qui habite en nous. Cela veut dire que nous consacrons ce temple qui est notre corps au service de Dieu, dans la société, dans le monde dans lequel nous vivons. Bref, tout notre être est complètement bouleversé lorsque le Christ entre dans notre vie. Parmi les exemples de conversion extraordinaire, je vois que l'heure avance, mais permettez-moi de terminer avec cette illustration. Parmi les exemples, donc, je disais, de conversion extraordinaire, extra-biblique, parce que dans la Bible, on a pas mal, c'est celui de Thoré, qui est très connu du monde évangélique. C'est lui-même qui raconte son histoire. Thoré raconte que lorsqu'il était jeune, il avait atteint le niveau le plus élevé de l'incrédulité. Il se moquait de tout, de la religion, de Dieu, de la Bible, etc. Mais malgré tout, sa mère l'aimait beaucoup et priait pour lui. Seulement, Thoré, il voulait quitter la maison maternelle pour aller vivre à sa guise, vivre librement dans le monde, faire tout ce qu'il voulait. Et un jour, il a décidé de quitter la maison. Alors sa mère l'a accompagné jusqu'au portail et l'a supplié de rester. Elle a prié, elle a pleuré, elle a embrassé, mais rien ne lui a fait changer d'avis. Et Thoré est parti. Mais avant de partir, sa mère lui a dit ceci. « Mon fils, si un jour tu dois faire face à l'heure la plus sombre de ta vie, et que tu penses qu'il n'y a plus d'espoir pour toi, clame au Dieu de ta mère et il t'écoutera. » Le jeune homme est parti de la maison et il a commencé à vivre à sa guise, dans les ténèbres les plus profondes, dans une incrédulité terrible. Il raconte même dans le péché. Et quelque temps après, alors qu'il se trouvait dans un hôtel pour y passer la nuit, dégoûté de la vie, dégoûté de tout le mal qu'il avait fait, de tous les péchés qu'il avait commis, dégoûté de cette conscience qu'il accusait, il s'est levé de son lit et il s'est dit « Je vais prendre mon pistolet, je vais me tirer une balle dans la tête. » Mais en prenant son pistolet, il s'est rappelé des paroles de sa mère. « Mon fils, si un jour tu dois faire face à l'heure la plus sombre de ta vie et que tu penses qu'il n'y a plus d'espoir pour toi, clame au Dieu de ta mère et il t'écoutera. » Et cet homme a jeté son pistolet, il s'est mis à genoux, il a reçu la lumière de l'Évangile, il a reçu le Christ dans sa vie. Et il est devenu l'un des plus grands prédicateurs du monde évangélique qu'on ait connu. Il a conduit beaucoup de monde à la foi en Jésus-Christ. Amen. Sa vie a eu aussi deux temps, avant la nouvelle naissance, avant la conversion, et après la conversion, après la nouvelle naissance. Voilà pourquoi la Bible affirme, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouveau. Voilà pourquoi il dit aussi que celui qui cherche le Seigneur de tout son cœur, il le trouve. C'est la promesse de la Bible, il le trouve. Quel que soit notre passé, quel que soit ce que nous ayons fait, un jour ou l'autre, il faut passer par la nouvelle conversion, par la nouvelle naissance, par la conversion. Nicodème, il te faut naître de nouveau, car personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau.